On lui parle assez souvent dans le podcast. On a la chance d'avoir un stratège en chef qui, ma foi, est un des plus compétents au Canada, peut-être aux États-Unis, même dans le monde. Sébastien McMahon de IA Groupe Financier, comment ça va?
Merci, t'es trop gentil, Pierre.
Ben écoute, je te vois aller, j'en regarde, on en voit aller d'autres, mais je vais te dire une affaire, vous ne chômez pas, là, vous avez de l'ouvrage et l'analyse comme ça, vous êtes très, très, tout le temps, vous tenez ça serré, comme on dit, mais vous êtes pas mal sa coche.
Ben, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est gestionnaire de portefeuille et économiste dans l'équipe, ce qui fait en sorte que, tu sais, on parle, on a des vues macro, mais après ça, il faut les mettre dans les portefeuilles, il faut les mettre de façon intelligente. Dans les portefeuilles, parce que c'est facile de dire je suis optimiste, je suis pessimiste, mais après ça, dans un portefeuille, tu ne fais pas n'importe quoi. T'sais. Comme dans le moment, quand on regarde l'économie et on va en jaser, il y a des raisons de penser que l'économie devrait ralentir devant nous autres encore, mais ça ne veut pas dire pour autant que dans un portefeuille, il faut aller se réfugier. Il y a des super belles opportunités dans les classes d'actifs encore, on pourra en jaser, mais c'est ça l'avantage du rôle que j'ai.
Absolument. Écoute, on va commencer avec la nouvelle du jour, l'inflation qui continue de décélérer, là, recule encore. On est à 5,2 en février, là, 4,3. Est-ce que tu es surpris de voir ça?
On n'est pas surpris de voir l'inflation ralentir sur une base annuelle parce que là, il faut penser juste l'arithmétique. Hein. C'est les chiffres de mars qui sont sortis aujourd'hui, ce matin, là, pendant qu'on enregistre. On compare mars 2023 avec mars 2022. Puis en début d'année 2022, l'inflation était assez forte. Fait que là, on est en train d'enlever des mois de grosse inflation au début de l'année 2022. Donc, on devrait, là, juste l'arithmétique fait en sorte qu'on devrait aller jusqu'à environ 3,5% cet été sur l'inflation. Ça c'est l'inflation qui est rapportée annuellement, là, sur base annuelle dans les médias, donc on s'en va là. Sur base mensuelle, par contre, quand on regarde l'inflation mois sur mois, on voit qu'elle est assez résiliente encore. Ça fait qu'il y a un petit risque, là, que cet été, on voit l'inflation faire un plateau. Aller de côté, puis ça va être plus difficile de la ramener à la baisse encore plus que ça. Puis Monsieur McLem, le gouverneur de la Banque du Canada, il en a parlé cette semaine, la semaine passée dans sa conférence de presse. Il y a même un petit risque qu'on voit des mois, parce que ça repart un petit peu à la hausse sur une base annuelle, mais c'est tout à fait normal, parce que quand on resserre la politique monétaire comme on a fait en 2022, puis de façon très, très agressive, là, ça prend 18 à 24 mois avant de voir les pleins effets. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, c'est juste que ça veut dire que ça prend du temps.
Oui, puis il y a plein d'impondérables. Il y a des hausses de salaire qui se donnent. Donc, d'ailleurs, le gouverneur a comme été un peu prudent en disant aux employeurs, faites attention, on veut s'attaquer à l'inflation, on veut la ramener à 2% le plus vite possible, mais si vous allez donner des hausses de salaire de 8, 9, 7, 8, 9, ben là, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, hein, aussi.
Ouais, puis la croissance des salaires, puis là, faut pas faire d'erreur, là. C'est normal que les entreprises payent pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Puis c'est
absolument
normal que quelqu'un qui dit ben mon pouvoir d'achat baissé, je vais avoir une plus grosse augmentation, c'est tout à fait normal. Le remède à tout ça, c'est que disons que la Banque centrale rebalance l'économie d'une façon cohérente à ce que l'inflation des salaires revienne aux alentours de 2, 3, 4 %, ce qui, ça nous permettrait d'avoir une cible d'inflation entre 1 et 3 qui serait atteinte. Donc, c'est ça leur rôle de mettre un peu le couvert sur la marmite pour calmer les ardeurs.
Ouais, puis tu sais, l'inflation pourra repartir à la hausse cet été si l'essence, le pétrole repart aussi. On a eu un break au niveau de l'essence. Le pétrole s'est négocié quand même dans des fourchettes très, très en faveur des consommateurs, là, mais on jase, puis on voit un pétrole, mettons, partir à 90-95 $ US le baril, bien, ça pourrait enflammer l'essence. Et là, à partir de là, l'inflation peut repartir vers le haut. Hein?
Oui, exact. Puis si je regardais mes graphiques ce matin, l'inflation de la gasoline sur un an, on est aux alentours de du moins 10, moins 15 %. Là. Donc, c'est un facteur qui est déflationniste quand on regarde le chiffre annuel. L'inflation de l'épicerie, bonne nouvelle, ce matin, on est reparti à la baisse, mais on est encore à un niveau élevé. Là, on parle encore de 18-9 %. Donc,
exact.
C'est encore là. L'inflation des soins de santé aussi qui est forte. Fait qu'il y a une couple d'éléments comme ça. Là, l'inflation des loyers aussi qui demeure.
Les hypothèques, les coûts d'emprunt qui ont explosé.
Ouais, exact. Fait que, il y a quelque chose de pervers aussi là-dedans parce que d'augmenter le taux directeur, ça fait augmenter le taux d'intérêt sur les hypothèques, ça fait augmenter le coût du logement qui est une partie de l'équation de l'inflation. Donc, il y a tout ça là-dedans. Mais la Banque du Canada, c'est des gens qui sont très compétents et qui voient à travers tout ça. Mais d'être en pause comme on est là. Puis le message qu'ils ont donné aussi, de dire qu'ils ont passé autant de temps à discuter de rehausser le taux directeur une nouvelle fois plutôt que de rester en pause. ils donnent un peu le ton que, tu sais, ils sont sérieux pour battre l'inflation. Ils vont y arriver. Il faut être confiant que, ça va être le cas. Mais faut pas s'attendre à ce que ça aille trop vite.
Est-ce que tu t'attends une hausse du taux directeur d'ici l'été pour la Banque du Canada ou tu dis, là, ça va bien, on fait le travail, on s'attaque vraiment à l'inflation et ça nous amène peut-être à une baisse des taux plus tard? Qu'est-ce que vous voyez?
Ben, je te dirais que nous, notre travail, vu qu'on est gestionnaire de portefeuille, c'est qu'il faut toujours s'ajuster rapidement à ce qu'on voit et à la nouvelle information. Fait que notre scénario de base aujourd'hui, non, c'est pas qu'on va avoir d'autres hausses du taux directeur, c'est qu'on va rester en pause probablement le reste de l'année, le temps de voir l'inflation à quel point qu'elle descend. Peut-être qu'on se trompe et qu'elle va descendre plus vite qu'on pensait. On peut arriver dans ce scénario-là. Mais je te dirais que nous, on avait écrit là-dessus en février, fin février, comme quoi, avant l'histoire des banques américaines, avant qu'on ait ce stress-là qui s'installe, ben on commençait à trouver que l'économie puis l'inflation était assez vigoureuse pour que ça justifie que la Banque du Canada sorte de sa pause, peut-être faire une autre hausse ou deux, juste pour être certain d'atteindre la cible. Depuis, on voit que les banques, ça s'est calmé aux États-Unis, ça s'est calmé en Europe, très bonne nouvelle, mais l'effet collatéral de ça, c'est qu'on voit que les banques se disent moins prêtes à prêter maintenant. Donc, si les banques prêtent moins, ça a un impact assez direct sur le cycle économique, ce qui peut faire que on peut avoir un petit peu plus de faiblesse économique devant nous. C'est bon pour les obligations. Par contre, si l'économie ralentit, l'inflation ralentit, ben avoir des obligations dans un portefeuille, ça devrait très bien faire pour le reste de l'année. Mais quand même, probablement que ça vient d'écarter les banques centrales, du moins la Banque du Canada pour le reste de l'année.
L'économie, est-ce que tu es surpris de la vigueur de l'économie canadienne? Parce qu'on avait des scénarios de ralentissement, certains évoquaient récession, il y en avait qui étaient très prudents là-dessus aussi. Est-ce qu'on ramène le spectre de la récession plus tard dans l'année où on voit un ralentissement? Et l'économie canadienne tourne, là, je veux dire, même si le gouverneur de la Banque du Canada, il dit, écoute, on remonte nos scénarios pour le premier trimestre de 0,5 à 2,3. Il se passe quelque chose pareil, là.
Il se passe quelque chose. L'économie canadienne est plus forte qu'attendue. En 2022, l'immigration au Canada, ça a été très fort. Là, on parle d'un million de personnes qui sont venues au Canada. C'est 2% de la population. Puis quand il y a des gens qui viennent, ça fait rouler le PIB. T'sais. Fait que le PIB par habitat, lui, il croît plus lentement, mais le PIB total est fort. Puis les gens qui viennent au Canada, c'est les immigrants les plus instruits qui s'intègrent le mieux dans une population à peu près sur la planète. L'OCDE a des analyses là-dessus. Donc, c'est un vent d'eau qui est important. L'économie canadienne, si l'économie mondiale ralentit, c'est pas mal ce que tout le monde s'attend encore, là, qu'elle ralentisse, peut-être un scénario de récession pas très profonde, là, une récession, pas quelque chose de trop drastique, ben, l'économie canadienne pourra pas nécessairement l'éviter, mais on n'est pas du tout dans un scénario, qu'on n'a jamais été dans un scénario de ces récessions profondes. On voyait une probabilité certaine d'un ralentissement, puis on était encore là-dedans.
Ouais, et l'économie québécoise là-dedans tire son épingle du jeu. Aussi, ouais.
Oui, l'économie québécoise va bien, la croissance économique va bien, un petit peu moins forte que dans le reste du Canada, mais quand même, ça fait un petit bout de temps que l'économie du Québec est vigoureuse, puis on rattrape du retard au point de vue de la productivité. Il y a des investissements qui viennent au Québec en technologie de pointe. Ça aide. Ça fait des années qu'on en parle, mais à un moment donné, ça fait boule de neige, là, tous ces facteurs-là. Puis on voit que l'économie du Québec, quand même, est en bonne posture. Puis là, avec les coupures d'impôts qui viennent d'être annoncées, ben, ça devrait donner un petit coup de pouce aussi aux consommateurs. Fait que je pense que l'économie du Québec va bien s'en tirer.
Oui, ça donne du gaz dans le réservoir, mettons, là, on va le dire comme ça. Hein? Oui,
exact. Exact.
États-Unis, c'est l'éléphant dans la pièce, là. C'est le cœur de l'économie mondiale à peu près, là. Donc, eux aussi ont leurs problématiques, mais somme toute, l'économie américaine demeure robuste, la création d'emplois aussi.
Oui, le marché de l'emploi est serré, la création d'emplois est forte. C'est beaucoup le grand point d'interrogation, puis on est en train d'écrire là-dessus pour notre prochain mensuel, va sortir dans 2 semaines, c'est l'impact du resserrement des conditions auprès des banques. Tu sais, là, les banques, là, il y a SVB qui est tombé, il y a First Republic qui est tombé, la Réserve fédérale a pris des mesures, le Trésor a pris des mesures pour stabiliser, puis ça fonctionne très bien pour le moment, donc mission accomplie à court terme du moins. Mais ce qu'on remarque par contre, c'est que les banquiers disent qu'ils sont peut-être moins prêts à prêter parce que là, il y a de la pression sur leur base de dépôt, ils veulent pas se positionner de façon vulnérable. Donc si le cycle de crédit, là, qui est un cycle qui est assez important dans le cycle économique, ralentit de façon abrupte, ça pourrait nous causer certains enjeux. Fait que l'économie, c'est comme ça, c'est cyclique. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé en 2020-2021 pour sauver l'économie mondiale de la pandémie. Là, maintenant, cet argent-là, ça a porté. Il faut s'attendre à avoir un petit passage à vide. Là, on en parle plus longtemps. Mais encore, je dirais qu'il y a beaucoup de raisons de penser qu'on va éviter le pire des scénarios. Donc, quand on regarde les marchés, nous, on n'a pas tendance à prendre de risques excessifs, mais on participe pleinement au marché. On est sous-pondéré dans les actions américaines parce qu'on voit qu'elles sont plus chères qu'ailleurs sur la planète. Mais ailleurs sur la planète, le Canada, les actions internationales, sur base historique, c'est vraiment attrayant. Donc, on a des vues assez positives de ce côté-là. Donc, on est pleinement investi dans ces marchés-là. Les obligations gouvernementales, ça fait très bien quand il y a un ralentissement économique, quand l'inflation se calme. Donc, on a beaucoup d'obligations. On n'a pas beaucoup de cash en main. C'est pas comme si on se cachait et on attendait qu'il y ait des opportunités qui arrivent. On voit des belles opportunités, mais c'est juste la prise de risque excessive dans le moment. C'est important de résister à l'effet de troupeau. C'est de courir après le marché dans le moment, ça peut être stratégique.
Oui, parce qu'on a vu les indices boursiers monter. Là, je regarde le Nasdaq qui était vraiment magané l'an dernier. Cette année, je regarde le Nasdaq 100 à 20 % d'avancée qui l'eût cru. Le S&P 500 8-9 à peu près. Là, Bourse de Toronto aussi. Donc, tu nous dis, marché canadien, au niveau des ratios cours-bénéfices, il y a quand même de quoi d'intéressant là.
Oui. Puis sur base historique, on regarde les percentiles historiques. Puis quand on regarde le Canada, là, on est dans le premier décile ou à peu près, là, moi, que ça ait bougé ce matin, là. Mais ça veut dire que sur base historique, le marché canadien, en termes de valorisation, 90 % du temps environ, il est plus cher qu'aujourd'hui. Fait que c'est un marché qui est très attrayant. Les marchés, quand on regarde le monde excluant les États-Unis, on voit aussi des ratios qui sont attrayants. Donc, c'est juste faire attention où on s'installe. Parce que depuis le début de l'année, on a vu un renversement des thèmes de l'année passée. L'année passée, la technologie, tout le monde vendait ça, tout le monde achetait des cycliques. Là, maintenant, début d'année, taux d'intérêt qui avait pris probablement un plafond, du moins le marché s'attendait à un plafond, s'attendait à ce qu'on baisse un peu. La technologie était devenue pas très chère, fait qu'il y avait une conjoncture pour que ça pousse. Ça peut pousser encore longtemps. Tu sais, timer les marchés, c'est jamais facile, même pour nous autres.
Ça peut être casse-gueule aussi, là. Hein?
Ouais, exact. Fait que là, on a eu ce renversement-là, ça peut durer encore, mais ça fait en sorte que les gens sont allés se diriger dans la technologie, puis ça a donné des opportunités intéressantes dans les financières, parce que tout le monde, les investisseurs se sont pas posé de questions, ils ont vendu les financières en mars. Puis les financières, on a beaucoup au Canada. Donc, il y a des belles opportunités qui sont arrivées là. Fait pour un investisseur avisé dans le moment là, de participer au marché, c'est très important. C'est très important de rester investi. Même si on a une vue économique qui peut être un petit peu plus prudente, je vous dirais que ça peut faire une dissonance mentale là, pour des gens, mais faut pas non plus mélanger appétit pour le risque et puis probabilité élevée de perdre de l'argent. C'est juste savoir où se positionner de façon un peu plus conservatrice, mais dans le marché, dans le moment, des super belles opportunités.
Est-ce qu'on voit dans les prochains mois peut-être une correction? Est-ce qu'on voit un marché peut-être, parce qu'on l'a eu quand même depuis octobre, là, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Je regarde, le Dow a monté beaucoup. Il y a des marchés comme ça qui ont repris de la vigueur. Est-ce qu'on voit quelque chose à l'horizon dans les prochains mois pour venir peut-être sceller là, ce marché baissier des 12 à peut-être 18 mois?
C'est toujours difficile de dire qu'on voit que quelque chose va arriver de façon imminente comme ça. Fait qu'on peut pas se prononcer là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que le marché canadien, il est jamais tombé en bear market. Là, on n'a jamais reculé de 20% et plus. Puis, il y a des bonnes chances qu'on passe à côté. Puis, quand on regarde l'histoire de 2022-23, on voit pas de bear market au Canada. Donc, ça, c'est une bonne chose. Du côté américain, l'histoire suggère que la fin d'un bear market, il y a un événement, là, puis il y a de la volatilité qui s'installe. Est-ce que ça va être assez pour dire que c'est une nouvelle correction ou bien ça va juste être un recul de quelques pourcents puis on va être rendu? Je le sais pas, mais nous, notre travail, c'est d'exposer les clients au bon risque. Puis dans le moment de se surexposer du côté des actions américaines, c'est pas nécessairement le meilleur risque qu'on voit, donc on aime mieux être ailleurs. Oui, quand même, les risques de voir un événement de volatilité boursière devant nous sont peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne.
Oui, puis on a vu dans les derniers mois aussi là, des joueurs se positionner de façon différente aussi. Ça va être à suivre, là. Un marché baissier, c'est ça. Habituellement, c'est quoi? C'est plusieurs mois, là. On parle d'une moyenne historique d'à peu près.
C'est environ 18 mois sur base historique. C'est à peu près 35 % de recul. Là, le 18 mois, on va l'atteindre cet été au mois de juillet. Donc, ça serait la moyenne. Il y en a qui ont été beaucoup plus courts, il y en a qui ont été plus longs, mais la moyenne, c'est à peu près ça. Quand on était rendu en octobre dans le creux, on était à moins 25. Donc, tu sais, la moyenne, c'est moins 35, mais il y a des marchés baissiers qui ont fait moins 20,1%, puis c'est un marché baissier aussi, donc la distribution est assez large. Donc, dans le moment, on est encore dans un marché baissier typique, mais tu sais, quand on est tard dans le marché baissier, ben il y a quand même, tu sais, au début du marché baissier, c'est bon de le voir venir puis se positionner défensivement, mais quand on est rendu plus loin dedans, il n'y a pas lieu non plus d'être hyper défensif.
Exact. Puis là, il y a des choses qui vont arriver. On a vu le secteur bancaire vaciller de mémoire d'homme, trois banques qui font faillite, ou à tout le moins Silicon Valley Bank, la banque Signature, Silvergate, puis First... entre autres, là,
First Republic.
Donc là, écoutez, il y a eu une injection massive de fonds. On a vu, là, je pense que c'est 7 ou 8 banques centrales dire on va mettre des liquidités jusqu'à la fin avril. Et depuis ce temps-là, il y a de l'huile, beaucoup d'huile dans l'engrenage. Et il y a le plafond de la dette aussi, le fameux plafond de la dette là, aux États-Unis qui devrait être renégocié. Et là, on embarque là-dedans, c'est technique, mais ça pourrait nous amener cet été, mois de juillet. Ouais. Où là, ça pourrait avoir des conséquences. Donc, il y a encore beaucoup de choses à l'horizon. Hein?
Oui, il y a beaucoup de choses. Puis, tu sais, puis aussi, il faut être conscient qu'il y a toujours des raisons d'être prudent dans les marchés. Même dans les plus beaux marchés haussiers qu'on a vus, il y avait toujours des raisons d'être prudent. Cette année, on fait pas exception à ça. Le grand point d'interrogation qu'on a, puis pourquoi que nous, on trouve que c'est notre rôle fiduciaire d'être un peu plus prudent sur certains thèmes, c'est que le resserrement de politique monétaire qu'on vient de vivre. Il ne faut pas oublier qu'en juillet l'année passée, à un moment donné, la Banque du Canada a monté de 100 points de base d'un coup, le 4 hausses d'un coup. Puis on sait que tout ça, ça a un effet retardé de 18 à 24 mois, puis c'est pas constant dans le temps. Fait qu'on sait que la lourdeur de tout ça, c'est probablement devant nous. Mais est-ce que ça va quand même, est-ce que ça va créer un environnement de haute volatilité ou ça va juste retenir la croissance par en arrière pendant un bout de temps? Tu sais, nous, il faut toujours voir tout en termes de scénarios et de probabilités. Fait que quand on voit les probabilités de scénarios positifs, négatifs, qu'on balance tout ça, ben, ce que ça nous dit, c'est on va aller s'installer dans ça. On va prendre certains risques qu'on veut prendre, des actions canadiennes, des obligations longues. Des actions américaines, c'est un risque peut-être moins intéressant qu'on laisse de côté. Puis au total, ça fait un portefeuille qui est aussi bien diversifié puis qui participe au marché.
Oui, et l'Asie repart. On a eu les chiffres de la Chine. COVID-0, c'est terminé pour eux, là. Donc, la machine chinoise se remet au boulot. Il y a ça ouais. aussi dans l'équation. Donc, l'Asie, par l'FMI. Le pétrole, là-dedans, on le voit où?
Le pétrole, avec les coupures récentes de OPEP+, avec la Russie, on continue de penser que la trajectoire à la hausse, c'est celle qu'on devrait, c'est notre scénario de base, là, qu'on continue de monter. Plus tôt dans l'année, on aurait pensé que de toute façon, même sans cette coupure-là, il y a assez manqué d'investissement en production pétrolière pendant la pandémie que on pourrait aller toucher pas loin du 100 $ sur le prix du baril. Donc, si l'économie tient le coup, probablement que oui, on va continuer d'augmenter sur le prix du pétrole, ce qui devrait nous amener un peu plus haut au prix à la pompe cet été aussi, là. Donc, ça vient avec.
Et l'or, pour terminer, l'or des sommets aussi. Ouais. Est-ce qu'on voit l'or un potentiel plus élevé de ce qu'on a vu au cours des derniers mois?
L'or, si on a un scénario comme quoi l'inflation ralentit juste assez pour que les banques centrales commencent à dire « travail terminé », il y aurait de la place que l'or, on pourrait même l'avoir jusqu'à 2500 là, dans les prochains 18 mois. C'est un scénario qu'on regarde, mais c'est toujours une question de ce que le dollar américain va faire. Donc, le dollar américain, c'est un peu le contrepartie de l'or. Le dollar américain qui baisse, l'or monte, puis l'inverse est vrai aussi. Donc, on va voir si... On a des risques géopolitiques internationaux qui s'installent. Ça peut être bon pour le dollar américain, négatif pour l'or. Fait que l'or, c'est compliqué. Nous, on la voit vraiment dans un portefeuille comme un facteur de diversification. Donc, généralement, s'il y a du stress qui s'installe, ben avoir de l'or, ça te compense pour d'autres classes d'actifs plus risquées. Fait que c'est un peu comme ça qu'on voit l'or. Mais il y a un bon potentiel si jamais on réussit à avoir des signaux positifs des banques centrales dans les prochains mois.
Ça sera à suivre. Sébastien McMahon, stratège en chef IA Groupe Financier. Merci beaucoup.
Plaisir, Pierre.
Vous avez aimé ce segment gratuit du podcast Cachemire? Devenez contributeur exclusif Cachemire pour aussi peu que 1,53$ par semaine. Participez à créer un modèle médiatique du futur, un média libre et indépendant financé par ses auditeurs. Avec cette contribution, recevez également du contenu exclusif chaque semaine par le biais de notre infolettre financière. Rendez-vous sur le site web cachemireplus.com. Cliquez sur l'onglet infolettre financière.